BD Culte, exploration d'une séquence iconique du 9e art. Ce mois-ci, nous allons nous pencher sur Spirou à l'occasion de la suite des aventures de Spirou et de la mort de Spirou qui vient de sortir par Schwartz chez Dupuis. Alors, nous allons nous rappeler que Spirou a déjà failli mourir. C'était dans Panade à Champignac, le 19e Spirou en 1969. Nous allons commenter la séquence des planches 35 et 36. C'est le dernier Spirou dessiné par Franquin qui a tenté de tuer définitivement ce personnage dont il a hérité. Il l'hérite de Jigé. Il le dessine depuis 1946. Et cette planche est publiée dans le journal Spirou, 1539, du 12 octobre 1967. Et Franquin a mis 2 ans en tout pour faire 37 pages au lieu des 48 habituelles. Que s'est-il passé ? Alors, nous rappeler André Franquin, né à Bruxelles en 1924, parti en 1997, on peut le qualifier d'auteur iconoclaste. Dès l'âge de 5 ans, il adore dessiner des animaux. Plus tard, il fera le marsupilami. Il fait des écoles d'art à Saint-Luc. Il adore la bande dessinée américaine. Il lit Flash Gordon, Alex Raymond, Georges McManus, la famille Illico. Et il adore aussi l'illustrateur Beuville, dont il organisera une belle expo à Bruxelles. Il est aussi fan de Pierre Dac. Et on connaîtra un peu l'humour de Franquin lié à Pierre Dac. Et aussi amateur de jazz, il improvise et il fera de Gaston un joueur de gaffophone. Et Franquin, au début, a voulu être animateur. Il était membre d'un studio d'animation, le CBA, avec Pape, Maurice et Peyo. Il est parti aux États-Unis en 1948 avec Jigé et Maurice pour rencontrer Disney et essayer de faire carrière. On voit ça dans une BD de Gringos Locos de Schwartz. Et il a travaillé dans 2 ouvrages qui sont cultes. Un ouvrage avec Jigé, Comment devenir créateur de BD, et des entretiens qui viennent de reparaître avec Numa Sadoul. Et Franquin créa La Gaffe, réédité en novembre 2022, où on a apprend beaucoup de choses, dont effectivement la genèse de l'album et de la planche dont on va parler maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que la patte Franquin ? La patte Franquin, c'est beaucoup d'humour, hein, des personnages truculents. Il va dynamiter le récit d'aventure, il va prendre soin des décors avec des assistants comme Will et JDM. Notamment, il commence en 1946 avec la maison préfabriquée. C'est quelqu'un qui a un engagement humaniste et social. Pourtant, il ne va pas toujours aller très très bien. La première crise existentielle de Franquin apparaît sur QRN, sur Bretelsburg, scénario de Greg en 61. Prépublication sur 3 ans et 15 mois d'arrêt total, parce que Franquin ne va pas bien. Le personnage de Spirou ne lui appartient pas, il l'a repris à Jigé, effectivement. Un personnage qui a été créé par Rob Vell, il est groom. Il a été effectivement repris depuis. Dupuis a racheté le personnage. Et c'est intéressant, c'est que Franquin, il va créer un certain nombre de personnages qu'on retrouve dans les planches dont on va parler. Il a créé le comte de Champignac, qui est un scientifique sympa mais distrait. Zorglub, un savant machiavélique qui était un ami, qui est devenu ennemi aussi, qui va foutre un peu le chaos dans l'aventure dont on va parler. La jeune Sécotine, qui est une journaliste un peu ambitieuse, le maire de Champignac, le cousin machiavélique de Fantasio, Zantafio, et surtout le marsipulami, hein, que l'on voit dans cette dernière aventure, et Gaston, qui sera le héros favori de Franquin par la suite. Voilà, Spirou existe toujours, il a plus de 75 ans et on le trouve toutes les semaines en kiosque. C'est un journal pour les jeunes, hein, créé en 1938 par les éditions de Jean Dupuis, qui était imprimé à Marcinelle. Il avait fait un journal pour les femmes, Bonne Soirée, en 1922, un journal pour les hommes en 1923. Eh bien, Spirou, un journal pour les grands-enfants que nous sommes, reste toujours présent dans les kiosques aujourd'hui. Voilà, alors l'album Panade à Champignac, hein, 19e de la série. Album qui apparaît dans les prépublications comme étant un album bizarre, parce qu'effectivement on a des personnages qui disent vous allez au château, ça ne tourne pas rond chez le comte, le vieux est devenu fou allié, donc on sent que le comte de Champignac ne va pas bien. Alors quel est le pitch de l'album pour introduire aux 2 planches? C'est que à la rédaction du journal Spirou, Fantasio est au bord d'une nerveuse breakdown, un peu comme Franquin, à cause de Gaston, le nouveau personnage sans emploi, agent de bureau qui arrive et qui rend la vie impossible à Fantasio et à la rédaction. Pirou lui propose de partir en Champignac, revoir le comte et se changer un petit peu des idées. Mais lorsqu'ils approchent du château, ils sont intrigués par les propos des villageois, qui prétendent que le comte est devenu vraiment fou cette fois-ci. Ils voient que effectivement le comte est épuisé, il élève un Zorglub, là. Zorglub est retombé en enfance, à cause de quoi ? Du rayon de la mort de Zantafio. Le rayon, dans l'ombre du Z, Zorglub, effectivement, est un bébé de 38 ans. Il a été pris à son jeu, choc en retour de ses expériences diaboliques. Ce bébé Zorglub est enlevé par un étranger qui rôde autour du château. Spirou et Fantasio se lancent à sa poursuite et là, ils tombent sur un ancien fanatique, un ancien Zorglonde, nostalgique de l'ère de Zorglub, et qui là, effectivement, il est armé d'une Zorglonde. Et cette Zorglonde peut, effectivement, paralyser tout le monde, et c'est ce qui va presque se passer dans les deux planches qu'on va écouter. Et effectivement, tous ces personnages sont jetés dans une courte poursuite, qui est très très iconoclaste et qui va mettre les personnages très à mal. Alors cet album va être énormément critiqué. Dans BDTech, on dit que Franquin détruit son univers, que l'histoire est sans intérêt, on a une série de gags, et par contre pour d'autres, on pense que c'est une histoire de Spirou qui est la moins naïve et que c'est vraiment une espèce d'adieu aux armes, pour rire aux larmes. Alors, on se dire effectivement que Franquin était au bord du burn-out, Spirou ne le fait plus rire, il va travailler avec Peyo et Gosse et Delporte pour le scénario. C'est intéressant de voir cette collaboration entre les auteurs. JDM va toujours faire les décors et effectivement, nous allons avoir une fausse fin. Donc, on va avoir un twist narratif ou un commentaire de Franquin à la fin qu'on va écouter et sur lequel on reviendra, où effectivement il twiste cette fin et c'est très étonnant. Et l'album publié aura une autre histoire avec, qui sera Bravo les Brothers, avec Gaston qui vole la velette au collectif. Maintenant, nous allons écouter cette planche et rentrer dans cet univers assez étonnant.
Longuement, Pacôme refit à pied tout le chemin parcouru fait par nos amis à la poursuite de Zorglub.
Ah, mes pauvres amis!
Jamais Spirou et Fantasio n'avaient été aussi heureux de revoir le comte.
Ah, bon, à présent, laissez-moi seul avec eux. Je vous avertirai. Pour ce travail, il me faut de la concentration, du calme.
Ouba, ouba!
Si Champignac est touché, il n'existe plus au monde personne qui sache comment nous rendre le mouvement. Aïe, aïe, aïe!
Et surtout, il n'y a pas un scénariste au monde qui puisse tirer l'auteur de la situation où il s'est fourré. Ce coup-ci, c'est bien la fin.
Oh, heureusement, Glum. Quand on a parlé de Zorglonde, je me suis méfié. Je me suis mis dans les oreilles les petits appareils protecteurs que je fabriquais jadis. Oh, débranchons cette maudite arme qui a fait bien assez de dégâts.
Ah, merci. Merci, mais j'ai eu une frousse bleue.
Le travail fut long. Très long.
Oui, Fantasio. Nous traiterons Zorglub en tout dernier lieu. Pour lui, je dois prendre quelques précautions.
Voilà, donc c'est une planche très étonnante où effectivement Champignac apparaît pour sauver tout le monde et suite à une gaffe du marsupilami, tout le monde est presque vitrifié, solidifié, zorglondé. Alors, pour marquer la paralysie, Franquin va avoir l'idée de coloriser en bleu ses personnages. Donc ça, c'est une idée visuelle assez géniale pour montrer effectivement cette idée de glaciation. Le format de la planche, on est sur un format assez gaufrier, 8 cases, 4 carrés. Et ce qui est intéressant, c'est la case en noir et blanc, où on voit une voiture et qui est en noir. Donc déjà, on a l'idée des idées noires qui vont arriver par la suite. Franquin utilise beaucoup les onomatopées, hein, que ce soit les mots ou les sons, le « ILZ ». Et effectivement, on a le carton fin avec un petit personnage qui apparaît, qui est un croston, un personnage, un farfadet qui donne la morale de l'histoire. Voilà. Se rappeler aussi que Franquin ira beaucoup plus loin dans la noirceur. Là, le twist nous amène à une fin heureuse, mais on était à deux doigts d'être dans les idées noires. Alors les idées noires, on les trouvera à partir de 77 dans le trombone unistré et dans Spirou, et notamment aussi dans Fluide glacial, qui publiera, parce que c'était un peu trop adulte pour le journal Spirou. Alors, quand on voit la fin de la première page, et qui est arrivée au numéro 1555, Franquin dit il n'y a pas un scénariste qui puisse tirer l'auteur de la situation où il s'est fourré, parce que il a sacrifié tous ses héros. On a l'impression que tout le monde est paralysé. Et alors là, C'est le croston en plus, hein, le petit lutin qui dit cette espèce de mot final. Alors, sauf que le numéro d'après, c'était un faux cliffhanger, puisque, vous l'avez entendu, tout se passe bien, il suffit juste après de réanimer petit à petit tous les personnages, et happy end provisoire, avec effectivement l'idée que, est-ce que Zorglub va redevenir un jour normal et ne va arrêter de semer le chaos dans le monde? Ça reste un suspense sur lequel les auteurs de la reprise vont bien entendu surfer allègrement. Donc, Franquin nous fait une blague, c'est évident. Cet album nous renvoie à cette idée de la difficulté qu'il avait à travailler chez Spirou, hein, pour donner un petit peu son travail. Il ne voulait pas, Charles Dupuis n'aimait pas Zorglub, enfin, ils étaient en désaccord sur un certain nombre de choses. Donc effectivement, l'idée est intéressante de se dire que le Spirou de Franquin est sauvé, mais ça sera le dernier Spirou dessiné par Franquin. On aura donc, effectivement, actuellement, on a 22 auteurs. Spirou est une marque, hein, contrairement à Tintin, qui n'est pas repris. On a 56 albums aujourd'hui, donc sur 75 ans. Donc on a toujours ce trio d'amis qui apparaît. Donc là, on a le petit le marsupilami, le petit écureuil, enfin tout un bestiaire sympathique. Bon, les deux savants foutraques continuent à vivre et à avoir des rapports à la fois amicaux et complexes, c'est-à-dire que Franquin refuse la dualité. Zorglub, effectivement, c'est un personnage qui est très attachant et qui, en 2017, va avoir sa propre série, hein, dessinée par José-Louis Munuera. Ce qui est intéressant, c'est cette idée du savant dévoyé. Hein. Contrairement à Champignac, finalement, Zorglub a besoin d'être reconnu. Il a besoin de montrer qu'il est le plus grand des scientifiques. Et ce rayon paralysant, c'est-à-dire ce travail sur les ondes qui agit sur la conscience, va être un de ses inventions les plus emblématiques, qui va être repris. Le marsupilami qui, là, dans cette histoire, c'est un peu un agent du chaos. Il joue avec la Zorglonde, mais il n'a pas conscience qu'il fait le mal. Ce petit personnage, c'est un personnage propre à Franquin qui va lui servir avec baptême. Il est inspiré du Pilou-Pilou de Segar. On le voit déjà en 52 dans Spirou et les héritiers. Et l'idée a été donnée à Franquin quand il a vu l'hyperactivité d'un receveur de tram à Bruxelles. Et sa queue est multifonction et il fait des onomatopées original qui font beaucoup rire les enfants. Alors, le style que l'on voit dans la planche est un style caricaturiste plutôt réaliste. Petit à petit, le style de Franquin s'est fait de plus en plus expressionniste. Il a le sens des arrondis du mouvement. Son lettrage est très complexe. Il est influencé par Eddie Pape. Et c'est clair que Franquin a une capacité fabuleuse à dessiner sur un large spectre, allant des animaux jusqu'aux autos. Les signatures parlent souvent, là qu'on a le croston qui donne une fausse fin, et les crayonnés sont toujours très aboutis. Alors, quelle est la postérité de cet album ? On peut dire, dans les entretiens qu'il a avec Jacques Sadoul, qu'il avoue avoir s'est amusé à croiser George Orwell et Tex Avery. Hein, effectivement, l'idée de la dystopie totalitaire, et puis le splatchique, le burlesque de Tex Avery. Et l'air de rien, derrière cette petite histoire un peu qui a l'air superficielle, Franquin nous avertit du danger d'une science sans conscience et de la quête de l'immortalité par des savants fous qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de transhumanistes. Il est fasciné par l'idée du pacte faustien et du choc en retour qui fait que Zorglub devient un bébé, hein, dans un premier temps, et puis de cette idée de guerre des ondes qui vont zombifier les masses. C'est intéressant, à l'heure actuelle on déploie plein de 5G, 6G sans trop se poser la question de qu'est-ce que ça fait sur les gens. Et Franquin est très désillusionné sur l'état du monde. Effectivement, il y a même un petit clin d'œil au fait que certains de ces personnages deviennent des jouets comme Spip et Spirou, on les achète, et ça Franquin n'aime pas du tout. Il va faire une planche de Gaston pour Amnesty International, et effectivement Franquin a toujours refusé l'ordre établi et s'ira très très loin dans Gaston Lagaffe quand Gaston s'apprendra à Lontarin et à ses parcs-maîtres. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Spirou, pour Franquin, c'était devenu une coquille vide. Par contre, il a donné des conseils à Fournier, qui est breton, et qui reprend Spirou pour une métaphore sur l'alchimie qui s'appelle le faiseur d'or. Voilà. Donc là, l'histoire est quand même chouette. Aujourd'hui, on a le Spirou 2, hein, qui est vu par un certain nombre de spécialistes. On a une très belle lecture de Spirou pendant la Deuxième Guerre mondiale par Émile Bravo, qui a donné lieu aussi à une belle exposition au Muséum de la Shoah à Paris. Et effectivement, La question qui apparaît sur Franquin, c'est de se dire la question de la dépression, hein, qui apparaît plusieurs fois dans sa vie, qui est beaucoup expliquée et documentée dans les entretiens avec Sadoul. Hein, mais c'était aussi l'idée que Franquin n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait et se remettait en question très souvent. Donc effectivement, on peut voir que ce qui va survivre à ça, bah, c'est le marsupilami, hein, qui n'a pas été touché par la Zorglonde. Hein, c'est le seul qui resterait potentiellement vivant si Champignac n'avait pas mis ses bouchons d'oreilles. Et le personnage de Gaston, qui apparaît dans l'histoire d'après, dans l'album Bravo les Brothers, et Franquin a dit qu'il ne sait, finalement, on ne s'amuse vraiment bien avec que les personnages que l'on a créés. Donc Gaston sera créé en 47 sur plusieurs formats et il va critiquer le monde moderne à la manière d'un Jacques Tati. Et la question du repreneur de Gaston se pose aujourd'hui, mais nous y reviendrons dans une prochaine émission. Pour clôturer, nous allons partager l'avis de Jean-Claude Carrière, grand scénariste du cinéma, qui trouve que cet album est plutôt super, parce qu'il dit que finalement, c'est peut-être tout ce qu'il ne faut pas faire sur un plan de scénario, c'est-à-dire déconstruire totalement les choses. Mais l'idée, c'est que Franquin a toujours l'idée de rebondir, comme dans le burlesque. Hein, les planches qu'on a vues sont iconiques, l'une rebondit sur l'autre. C'est un constat jeu d'équilibriste, finalement, et d'ordre et de désordre. Et Jean-Claude Carrière conclut sur l'idée qu'il est temps de rendre à cet album, Panade à Champignac, sa place d'honneur dans l'histoire de la BD et de la littérature tout court. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec cette petite présentation. Et nous vous invitons à relire les entretiens de Franquin avec Numa Sadoul qui viennent de reparaître. Voilà, merci Monsieur Franquin de toujours nous faire rire.